Conversation avec un article, 24e épisode déjà. Le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents publiés dans une revue en sciences humaines et sociales. Et désolé pour la voix fracasse, mais j'enregistre un dimanche matin à 9h. J'avais enregistré avant, mais je me suis rendu compte que sur les 15 minutes, j'avais écorché le nom de la collègue scientifique. Donc, je préfère réenregistrer parce que c'est un peu la honte. Et puis ça me permet d'entraîner ma voix comme ça. Alors ça faisait un moment que je n'avais pas enregistré un podcast depuis octobre dernier. Qu'est-ce que j'ai foutu tout ce temps? Ben, j'ai une vie, figurez-vous, même si on dirait pas comme ça. Et entre-temps, j'ai aussi testé d'autres formes de médiation. J'ai généralement besoin de multiplier, démultiplier, surmultiplier les formes, les expériences, les lectures pour revenir à l'une d'entre elles, ce qu'on appelle de la procrastination structurée, paraît-il, ce qui permet de fuir en fait toutes les autres activités. Aujourd'hui, donc, un article publié le 24 janvier 2020 dans la revue Journal of Contemporary Ethnography. Vous m'excuserez pour l'accent, mais il est tôt. Il a été publié par Ruth Ayas et non pas Ayab, comme il avait fait dans la première version. Professeur de sociologie à l'université allemande, j'aurais dû m'en douter, de Bielefeld. Je l'avoue, je triche un peu. J'avais déjà traité de cet article sur mon carnet de recherche en ligne. Je l'ai fait migrer ici pour me remettre doucement en route, ce qui ne change rien pour vous, hein, c'est juste pour être transparent. Et je referme la parenthèse. Alors, l'attente étudiée dans cet article est un très vieux thème de la littérature qu'on retrouve chez Sophocle, chez Homère, chez Beckett, évidemment, en attendant Godot. On le retrouve également en musique chez Barbara. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. En poésie, on retrouve l'attente évidemment chez la notamment divine Emily Dickinson qui écrivait La consommation et la hâte des imbéciles, mais l'attente est l'élixir des dieux. Je vous recommande Emily Dickinson de manière générale. On n'a rien produit depuis le 19e siècle d'aussi puissant, sensible et intelligent. En philosophie et surtout en théologie, l'attente est un thème qui a été très travaillé hein, par toute la mystique, par des philosophes comme Lévinas ou par Jean Kélévitch, qui n'en a pas fait qu'une ressource d'angoisse, parce que c'est chiant d'attendre quand même, hein, c'est un vertige dans certains cas quasi métaphysique, hein, dans les insomnies notamment. Mais c'est aussi un espace, un intervalle, comme diraient les poètes, où je peux venir m'accomplir, où j'expérimente d'autres formes d'attention, parfois contemplative. On peut donc aborder l'attente de mille façons, dans une perspective certes métaphysique, où l'on va tenter de situer ce qui se joue pour l'humain, pour l'anthropos, dans ce petit morceau de temps qui peut durer, dans certains cas, éternellement. C'est le cas d'un personnage comme Oblomov de Gontcharov, qui attend on ne sait quoi toute la journée sur son lit. Mais on peut aussi adopter une autre démarche, qui est celle de cet article, écrit depuis la sociologie et plus précisément depuis l'ethnométhodologie. L'ethnométhodologie, c'est un courant important, à mes yeux peut-être le plus intéressant ou le plus fécond intellectuellement de la sociologie, avec l'interactionnisme symbolique et le pragmatisme revisité par les sociologues français notamment. C'est un courant fondé par Harold Garfinkel dans les années 60 qui s'appuie sur la philosophie, l'anthropologie, la linguistique notamment. Il s'agit de prêter une attention à nos pratiques les plus ordinaires pour en révéler la densité en termes sociaux, institutionnels, temporels, langagés. Alors, pour être plus concret, les questions que se pose un ethnométhodologue sont les suivantes parmi mille. Comment et à quoi notre monde social tient-il? Comment mobilisons-nous les règles qui nous permettent de vivre ensemble? Comment se coordonne-t-on et quels sont les indices spatio-temporels sur lesquels nous nous appuyons sans mode d'emploi explicite pour nous orienter dans ce monde à côté les uns des autres? Pour l'ethnométhodologie, nous générons quotidiennement la réalité dans laquelle nous vivons. Elle est un accomplissement continu, écrit Garfinkel, ce qui ne veut pas dire qu'elle est construite selon la métaphore consacrée aujourd'hui, ou qu'elle n'existerait pas en dehors de nos gestes, de nos accomplissements. Nous ne faisons d'une certaine manière que la retrouver. Bon, je grossis vraiment le trait. Hein. Garfinkel a consacré 400-500 pages à la question, donc je n'ai pas la prétention d'épuiser bien évidemment le sujet. Et je vous renvoie à les travaux des ethnométhodologues français sur cette question. Je vous ai mis des références. C'est tout l'objet de l'article de Ruth Ayas. Montrer que l'attente est une activité coordonnée, structurée, mais surtout intelligible. Les gens qui attendent signalent toujours aux autres qu'ils sont en train d'attendre. Ils développent des signes, des gestes, des comportements qui normalisent la perception qu'on pourrait avoir d'eux. Imaginez quelqu'un qui n'attendrait pas de manière adéquate, qui hurlerait par exemple dans la rue pour manifester son attente. Il serait aussitôt disqualifié, regardé étrangement. Pour le montrer, la chercheuse s'est intéressée à diverses formes d'attente en mobilisant un matériau riche issu de différentes techniques et de différents matériaux. J'y reviendrai. La première partie de l'article récapitule les différentes théories de l'attente en sciences humaines et sociales et la manière dont cette thématique est encore marginalisée, voire maltraitée, réduite à l'oisiveté, à la paresse. Or, c'est un thème majeur. Dans la société de Cour, datée de 1969, Norbert Elias a par exemple montré combien le fait d'attendre était différemment distribué et vécu, selon les systèmes de classe. Si tout le monde attend ou a déjà attendu, tout le monde n'attend pas de la même manière, selon les mêmes logiques, avec le même confort. Ainsi, mon temps intérieur, intime, personnel, se trouve confronté à un temps social, à une structure qui m'impose d'attendre en respectant un protocole particulier, sans qu'il ne soit toujours clair et explicité. Les files d'attente, qui ont fait l'objet d'une littérature abondante, sont un bon exemple. Elles semblent s'organiser d'elles-mêmes en suivant un script implicite, un ordre sous-jacent, qu'elles retrouvent plus ou moins naturellement grâce notamment aux micro-ajustements des membres qui y participent. Mis à part les files, la pratique de l'attente a peu été étudiée, même si on trouve ça et là quelques articles. Ruth Ayas cite par exemple le travail de Kimmo Svinefud, j'espère bien le prononcer, là aussi je ne vais pas réenregistrer complètement le podcast. Donc ce collègue a montré comment les vendeurs attendaient la décision d'un client entre disponibilité et détachement. Dans certains cas, l'attente est donc une compétence professionnelle. Dans d'autres cas, comme l'a montré Goffman, le sociologue, elle donne des ressources pour définir un territoire, circonscrire un espace où l'on ne peut pénétrer sous peine de déranger la personne qui, manifestant les gestes de l'attente, se révèle ostensiblement indisponible en regardant son téléphone, par exemple. Nous pratiquons ainsi, dit Ruth Ayas, des formes de sociabilité asociale. Les autres parties de l'article de Ruth Ayas traitent son propre terrain, une file d'attente dans un bureau de poste, des gens assis dans les bureaux publics ou dans l'attente d'une inscription administrative, mais également l'attente dans une gare. La collègue sociologue a étudié l'attente de l'intérieur, pour utiliser une métaphore un peu commode, hein, puisqu'elle a attendu pour faire valider un passeport, et de l'extérieur, si je puis m'exprimer ainsi, en observant des gens qui attendaient à l'aide de différentes techniques, en présentiel, in situ, en distanciel, grâce à des caméras accessibles depuis Internet ou grâce à des photographies publiées sur Instagram et Twitter. Selon Ruth Ayas, l'attente manifeste d'abord des compétences spatiales. Une file d'attente ne s'auto-organise pas seulement d'elle-même. Elle s'appuie sur des ressources ou des affordances matérielles. Le concept est à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire des piliers, des bornes, etc. et des indications normatives et institutionnelles qui sont reconnues par les membres, tout comme les ressources dont je viens de parler, parce qu'ils ont des compétences spéciales, des compétences sémiotiques. Ils savent reconnaître les signes et les ressources nécessaires à la formation d'une file d'attente. Celle-ci s'adapte en permanence aux contraintes de l'espace. Elle fait corps avec son environnement. Elle occupe les endroits disponibles. C'est pourquoi elle peut prendre des formes parfois improbables, contourner un poteau, se démultiplier, en plusieurs files d'attente, qui rend difficile parfois même la lecture, par exemple, à la caisse des supermarchés, de certaines files d'attente. Ensuite, Routayas montre qu'un certain nombre de règles régissent l'existence de ces files. On peut sortir un moment d'une file d'attente en étant remplacé par quelqu'un, un conjoint, un ami, ou quelque chose, un sac à dos qu'on va placer en signe de sa présence. On peut également organiser des espaces circonscrits à plusieurs de manière assise lorsque la file a une temporalité très longue, un vol qui a du retard dans un aéroport. Dans ces cas, les corps se distribuent dans l'espace de manière à assurer l'intégrité des membres du microgroupe et des autres membres de la file, de façon à montrer qu'ils attendent malgré la position inhabituelle dans laquelle il et elle se trouvent. On voit donc ici que montrer, manifester les signes de l'attente est fondamental pour assurer la sécurité des membres d'un groupe qui attend. Mais il existe des gestions beaucoup plus explicites, comme les numéros distribués dans les services administratifs ou les inscriptions sur le sol, comme veuillez attendre ici. Ces espaces sont une valeur performative, c'est-à-dire qu'ils vont transformer littéralement le statut d'une personne qui, pour bénéficier des ressources du lieu où elle se trouve, doit respecter l'assignation qui lui est imposée. Avec quoi attendons-nous? Le corps est l'une des ressources de l'attente, montre Ayas. Nous nous inspectons beaucoup dans certains moments d'attente, nous toilettons. La collègue ne donne pas vraiment d'explication à un tel processus qui ressemble, selon moi, au geste auto-centré, fatigue. Je cherche sans doute dans ces moments à établir un contact avec moi-même. Je me rassemble, comme les gens qui tapotent dans les conférences leurs feuilles. La gestion de l'attente peut aussi se faire grâce à des supports et des documents, publicités, cartes, brochures, sur des présentoirs, qui peuvent être savamment distribués dans l'espace, par des administrations ou des organisations pour disséminer les gens et donc gérer l'afflux. Ces formes documentaires sont souvent éducatives ou didactiques, elles révèlent qu'il y a des manières d'attendre plus admises que d'autres. On ne trouve pas de console de jeux vidéo pour gérer l'attente dans une administration publique, par exemple. Voilà, c'est tout. Bon, il y avait d'autres points qui étaient intéressants, mais je trouve que pour une mise en route, c'est pas mal quand même. Une mise en route de conversation avec un article. Juste quelques points pour résumer. Alors, d'un point de vue intellectuel, l'article est vraiment passionnant. Je trouve de bout en bout, la perspective ethnométhodologique permet de donner de l'importance à de petits gestes que la chercheuse déplie pour en expliquer les modalités sociales et l'ancrage spatial institutionnel. Il manque peut-être une dimension politique, voire intersectionnelle, pour le dire vite, à toutes les situations qui sont étudiées. En effet, l'attente est un fait social hein, qui fait l'objet d'une hiérarchisation, comme l'a montré Norbert Elias dans la société de cour. Nous n'attendons pas tous de la même manière, mais nous n'avons pas non plus accès aux mêmes ressources. Pire, celles qu'on nous offre parfois, livres, brochures dans les bureaux administratifs, etc., ne sont pas adaptées à tout le monde. On peut même faire l'hypothèse que ces ressources et que les alignements sociaux que nous produisons, les accounts, comme disent les ethnométhodologues, pour montrer que nous attendons de manière adéquate, disqualifient une partie de la population qu'on accusera vite d'indiscipline si elle ne manifeste pas les signes attendus de l'attente. C'est quelque chose qui m'avait frappé l'année dernière pendant les pics de coronavirus où l'on demandait aux gens d'ouvrir des livres plutôt que de regarder des séries sur Netflix. Il me semble aussi que l'attente est une question en partie raciale. En partie, il faut prendre des précautions avec cette notion. Comme l'a montré une étudiante que je suis avec des collègues en master, Feriel Boukachabia, les livreurs d'Uber Eats attendent généralement les commandes des restaurants en groupes raciaux. Les Sénégalais d'un côté, les Marocains de l'autre, etc. Alors pourquoi? Bah parce qu'ils partagent un ensemble de ressources qui leur permettent d'attendre en manifestant les signes attendus à la fois de leur communauté d'appartenance et à la fois d'un espace social donné où ils sont scrutés, où leur présence exige d'être normalisée. Ils trouvent donc un entre-deux qui assure leur insertion tout en leur permettant d'attendre plus ou moins confortablement entre eux. Voilà, c'est tout pour cette fois. Et j'ai retrouvé petit à petit ma voix. C'est intéressant comme processus et expérience. Je devrais revenir beaucoup plus vite. La prochaine fois, ça m'avait manqué, je dois le reconnaître. D'ici là, bonne attente et à bientôt pour un nouvel épisode de Conversation avec un article.